Alors, on attendait l'arrivée du troisième intervenant, mais qui doit venir depuis la gare. Et il devait être impérativement là, il me l'avait dit, à 5h30, donc je suis un peu inquiète. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes de circulation. Voilà, donc j'espère qu'il arrivera pendant le cours de l'exposé. Et nous allons commencer sans lui, au moins par la présentation générale. Voilà. Donc, je me présente tout d'abord, je suis Maryse Lassalle, je suis à la fois enseignante à l'IUT Bordeaux 1, IUT génie mécanique et productique, et je suis également chercheure au laboratoire qui s'appelait avant Épistémé, laboratoire d'histoire des sciences et techniques, qui est un laboratoire de l'Université Bordeaux 1. J'ai fait les recherches dans ce laboratoire depuis une dizaine d'années en histoire des techniques et du coup j'ai réinvesti un peu ces connaissances que j'avais acquises, notamment par un DEA au CNAM en histoire des techniques à Paris. Donc j'ai réinvesti toute cette culture que j'ai eue sur l'histoire des techniques dans mon enseignement à l'IUT. Alors pas en mathématiques, je suis professeure de mathématiques, mais je n'ai pas réussi à leur parler de l'histoire de la vapeur, c'était quand même un peu hors sujet. Mais par contre, comme j'ai encadré des projets, et j'étais même responsable des projets, eh bien, j'ai développé des sujets de projet pour les étudiants où il était fortement question d'histoire des techniques et notamment de vapeur. Voilà. Donc, excusez-moi. Donc, j'ai invité deux intervenants. Pour l'instant, il n'y en a qu'une, donc Simone Sixou, qui a participé à ce livre, qui a elle aussi enseigné très longtemps à l'IUT Génie Mécanique avec moi. Nous étions collègues et amis, donc on a pu faire pas mal de choses ensemble. Elle est enseignante de lettres et moi donc de mathématiques. Et dans le livre, elle a travaillé sur la partie vapeur et imaginaire, notamment la vapeur dans l'art. Le deuxième intervenant, donc, qui va, j'espère, arriver, c'est un jeune garçon qui, lui aussi, vient de ce même IUT, qui a fait cette IUT de mécanique parce qu'il était passionné de trains à vapeur depuis tout petit, et donc il voulait développer sa culture sur le sujet, sur le plan technique, et pouvoir fabriquer, enfin, des locaux à vapeur, des petites. Et puis, donc, sa passion a perduré. Il est maintenant étudiant ingénieur à l'ENSAM, à Bordeaux, en alternance, donc moitié dans une entreprise, moitié dans l'école d'ingénieur. Et bien sûr, pour l'alternance, il a réussi à avoir une alternance avec la SNCF et à être dans les trains. Alors bon, pas toujours à vapeur, mais il reste quand même dans son domaine. Alors je trouvais que c'était un exemple intéressant de jeune homme qui a réussi à concilier sa passion et ses études. Donc il va avoir un diplôme d'ingénieur. Bon, c'est sûr qu'il ne fera sûrement pas carrière dans les locomotives à vapeur, mais il a quand même réussi à développer donc cet axe passion pour ses études. Et je trouve que c'est très intéressant. Donc j'espère qu'il pourra nous en parler s'il arrive. D'abord, donc, une petite histoire de ce livre. Ce livre s'appelle « L'Aquitaine à toute vapeur ». Donc, c'est en grande partie régional, à part certaines parties où on a été obligé de donner par exemple, pour l'histoire de la vapeur, on a donné une histoire générale avant de passer à l'histoire régionale. Hein. Mais c'est tout de même très, très axé sur la région. Il est issu de 4 ans de recherche donc, à l'IUT et dans diverses structures qui ont participé. Il a été écrit par une vingtaine de personnes. Donc, c'est un ouvrage collectif, interdisciplinaire. On a voulu vraiment montrer le monde de la vapeur dans toutes ses dimensions. Donc, c'est pour ça qu'on commence par l'art et la littérature. Et puis, ensuite, il y a des parties techniques. Il y a l'actualité avec des entreprises d'aujourd'hui. Et une partie historique importante. On termine par une partie patrimoine pour essayer de montrer qu'il y a finalement eu une histoire intéressante pour la vapeur dans notre région et qu'il y a encore de belles machines à découvrir. Voilà, donc ce sont des sites très peu connus et qu'on peut découvrir par ce livre. Dans ce livre aussi, ce qu'on a. Alors, il est. La cible principale, si on peut dire, puisqu'il faut parler de cible quand on fait un livre, c'était les collèges. Collège et lycée d'Aquitaine, parce qu'on avait travaillé déjà avec des classes et on avait vu que ce sujet de la vapeur était vraiment très interdisciplinaire et pouvait relier toutes les disciplines. Et donc, c'est à partir de ces travaux d'élèves qu'on a eu envie donc, de faire un ouvrage qui puisse rassembler ce panorama du monde de la vapeur. Donc, Simone Sixou va nous parler... Alors, je trouvais intéressant oui, de mélanger les sciences humaines et les sciences exactes. Et je pense que c'est quelque chose qui est fondamental dans la formation des jeunes. Hein, c'est de leur faire acquérir une culture, on va dire, un peu humaniste. Hein, leur montrer que toutes les techniques qu'ils vont utiliser, eh bien, derrière, il y a des hommes, il y a eu des inventions qui ont fait du bien, du mal, mais qui ont eu d'énormes conséquences pour nos vies. Et ces conséquences, on les voit à travers l'art et la littérature, et c'est ce que va vous présenter Simone Sixou.
Bon, c'était à la fois très intéressant et pas une mince affaire, parce que bon, c'est vrai que ça m'a amené à réviser un petit peu, à refaire des retours en arrière sur ce 19e siècle, qui est tellement riche de témoignages sur tous les bouleversements techniques ou industrielles qu'ont apporté la naissance de l'industrie, par exemple. Et donc, interroger la littérature imposait des choix. Hein, c'est-à-dire que des romantiques à l'incontournable Jules Verne, le choix était difficile. Donc, ce que nous avons interrogé aussi, c'est les traces que cette nouvelle matière, si on peut parler de matière, justement, la vapeur nous renvoie à un imaginaire extrêmement riche. Le mot vapeur contient lui-même un lien dans le lexique avec atmos, qui veut dire en grec vapeur. Donc le mot nous renvoie à tout un lexique très riche du côté de ce qui est insaisissable, puisque on ne peut pas cette nouvelle matière dans l'art, on ne pourra pas la saisir comme on aurait pu saisir une matière, les autres matières de l'art qui ont une texture ou une trame. Donc on a essayé de voir dans les représentations de la région, on a cherché à trouver des tableaux qui intéressent les bords de Garonne, rive droite ou rive gauche, et on va pouvoir essayer de voir comment les peintres qui jusque-là se sont affrontés à la représentation, par exemple quelque chose qui est voisin de la vapeur, ce sont les nuages. Et effectivement, dans l'histoire de la peinture, la représentation des nuages a toujours posé problème, puisqu'elle échappait à toute réduction, à des formes qu'on pouvait circonscrire ou enfermer dans des lignes. Et en particulier, elle échappait aussi à tout ce qui pouvait être la perspective. Donc, on va commencer par ce tableau. C'est au Musée des Beaux-Arts hein, qu'on a trouvé un certain nombre de tableaux qui pouvaient nous donner des traces de ce que le peintre a essayé de traduire avec cette matière nouvelle qui s'imposait dans le paysage. Alors ici, nous avons une vue de Bordeaux prise de Floirac. Alors on voit... on peut reconnaître un tableau qui date de c'est un tableau de Jean-Paul Allot qui date de 1832. On reconnaît à l'arrière-plan le pont de pierre qui vient d'être construit et également la Garonne. À côté des bateaux à voile, il n'est pas très distinct, mais un petit bateau à vapeur.
On le voit alors, mieux sur l'original.
Voilà. Alors si là aussi, on a encore la recherche du réalisme, au moins dans la représentation de l'arbre à droite, mais on voit bien que tout ce qu'on aperçoit sur l'autre rive. c'est-à-dire les, on voit les flèches de Saint-Michel, on voit bien que là, on a une brume. Alors cette brume, elle est, cette brume, ça n'est pas le traitement de ce qu'on peut appeler le flou de l'horizon. Ce n'est pas quelque chose qui, c'est quelque chose qui a été déjà traité par Léonard de Vinci avec son fameux sfumato, et qui était destiné à justement adoucir le trait et à unifier, adoucir. Synthétiser l'atmosphère du tableau. Alors on peut passer au suivant.
D'accord. Enfin moi je dirais simplement par rapport à la période, il y a un seul bateau à vapeur, tous les autres sont encore à voile. C'est encore assez rare. Enfin le premier bateau à vapeur à Bordeaux c'est en 1818. Alors deuxième tableau.
Alors il s'agit d'une usine dans les Landes, d'une papeterie. Non, c'est pas une papeterie.
On ne sait pas trop.
Les représentations d'usines sont pas commencent à apparaître. Ce n'est pas. On commence à s'intéresser au lieu de travail des hommes. Et ici, on a un tableau relativement réaliste. On aperçoit, l'usine n'est pas complètement déserte, on aperçoit sur la droite des hommes en train de travailler avec quelqu'un, un personnage qui est debout, hein, qui peut être... Là. Mais effectivement, aussi, on voit des dames.
Sinon, tu regardes là, Simon, tu regardes...
Ah oui.
Tu pourras voir des choses ici.
Ah, oui. Que tu vois pas là. Oui, d'accord. Et d'accord. Par exemple, ce que je ne vois pas non plus, c'est un peu le fouillis du premier plan. La recherche du réalisme dans les arbres, cette cheminée avec sa fumée, on ne sait pas trop si elle a pu servir à autre chose qu'à brûler les copeaux
pour alimenter une machine à vapeur. C'est pour ça qu'on l'a choisi, cette image, parce que c'est vraiment l'emblème de la révolution industrielle. C'est la grande cheminée qui montre qu'on a une chaudière. Donc même sur les dépliants publicitaires, c'est vraiment l'emblème du progrès. Avec, si possible, un gros panache. C'est un peu l'inverse de ce qu'on cherche actuellement. Je vois mal une usine se glorifier d'avoir un panache noir.
On les voit encore, mais elles sont... Voilà. Ils sont l'idée de leur...
La troisième. Donc voilà, c'est le début de la révolution industrielle. On revient à Bordeaux.
Alors le tableau, c'est un tableau qui a été réalisé au fusain. Ce qui convient parfaitement à l'atmosphère qu'on veut créer ici. Ce qui est remarquable là, c'est les contrastes qu'il a réussi à rendre avec cette lumière diffuse. Et qui est sur toute la partie droite du tableau et l'immeuble qui est à gauche. Donc on voit ici sans doute les quais des Chartrons. À l'horizon, on peut penser que ce sont les collines de Lormont. La présence de la vous avez deux steamers qui sont à quai et on voit les activités qui avaient lieu à ce moment-là sur les quais, en particulier on voit que l'énergie aussi elle est encore animale, hein. On a des chevaux qui servent de traction. Là, on peut voir tout à fait le flou sur les collines. Le paysage est noyé dans cette lumière qui adoucit les contours. Je continue.
Alors, un grand voyage.
Alors ça, c'est un tableau de Richard Faxon.
Quelle année
qui date de 1868. Donc c'est le départ de Bordeaux d'un transatlantique. Et on voit qu'il n'est pas seulement... alors là, on voit la cheminée indique la vitesse, enfin qu'il est en train de prendre de la vitesse.
Ou pas.
Bon.
S'il y a beaucoup de vent.
Ah oui, ça peut être le vent. Et alors là encore, travail de la lumière et du ciel, des nuages. Et c'est un bateau qui fonctionne, vous le voyez, avec des roues à aube, parce qu'il ne pourrait, il ne pourrait faire sa traversée seulement avec ça, à cause de la... Les roues à aube, elles servent surtout à naviguer dans les... pas sur les grandes distances, mais...
D'accord. Oui, c'est plutôt. Mais ça dépend si c'est avant ou après l'invention de l'hélice. Et là, j'ai un trou.
Ah, oui,
je ne me rappelle plus par rapport à cette date, si l'hélice était encore inventée ou pas. Oui, oui. Léonard de Vinci a aussi inventé le vélo, etc. Mais bon, l'utilisation réelle est beaucoup plus tardive. Pour l'hélice, ça a été pareil.
Alors là, on voit
tous les premiers bateaux étaient avec des roues à aube. Il a fallu l'invention de l'hélice pour qu'elles disparaissent quasiment. Elles continuent, pardon, à être utilisées quand même, ces roues à aube, par exemple sur certains lacs, parce que ça fait des bateaux très très manœuvrables.
Voilà.
Ils peuvent tourner sur place. Oui, c'est très beau. Mais à Bordeaux, non, on n'en a plus. À Bordeaux, on a eu beaucoup de mal à trouver des traces de la vapeur. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est allé dans les musées, parce que dans la ville elle-même, il n'y avait plus grand-chose. Je peux passer ?
Ben là, on voit que les quais ne sont pas aménagés,
hein,
puisque les barques sont nécessaires pour aller embarquer les passagers ou décharger les marchandises.
Alors, le suivant.
Alors, celui-là, c'est une image assez étrange. C'était une esquisse, représentant une allégorie. On voit au premier plan, on la reçoit comme quelque chose d'assez agressif. Au premier plan, on voit cet homme qui surgit des flammes, qui est Vulcain, c'est Vulcain, qui a l'air de... On ne sait pas s'il est... il a l'air de sortir un vainqueur, puisqu'il brandit deux objets, un vase en céramique et de l'autre côté... une statuette de Persée, bien connue de Benvenuto Cellini, et qui brandit la chevelure de la méduse qu'il vient de tuer, qui est encore à ses pieds, sur lesquels il est. Et donc, derrière Vulcain, qui représenterait là, c'est une allégorie qui a l'air de représenter l'industrie triomphante à cette époque. On voit une femme qui a l'air méditative, ou en tout cas d'observer ce qui se passe. Alors, quelle est-elle ? En tout cas, elle représenterait l'eau, le Vulcain, le feu, l'eau, alors c'est peut-être Junon. En tout cas, c'est une allégorie qui était destinée à une rencontre à Philadelphie l'année d'après. Ce n'est qu'une esquisse qui a été faite avec des pastels. Alors on voit le personnage central est encadré à gauche par quelque chose qui a l'air d'être les cheminées d'usine. Et en tout cas, c'est la fumée qui envahit, qui noircit le ciel. Et sur la droite, on aperçoit un pont avec le train fumant. Et on pense, le ciel est zébré de rouge. Et on peut, on a l'impression qu'on pourrait entendre le bruit. Qu'il peut faire et le grondement qu'il est en train d'émettre. C'est un tableau qui est impressionnant, qui effectivement bon, cet alliage, ces deux éléments importants que sont l'eau et le feu, là, qui entrent en jeu, ils ont l'air, enfin, ils sont inquiétants, même si, effectivement, ils semblent bien être à la gloire de, l'industrie triomphante à l'époque.
Oui, alors je voudrais juste dire le titre de ce tableau, c'est Le génie du feu. Et vous conseillez un livre, si vous voulez réfléchir à ce problème du feu. C'est Alain Gras, qui est un philosophe parisien, qui a écrit un livre il y a l'année, je ne m'en souviens plus, ça s'appelle Le choix du feu. Il remet justement en question le fait que, au XIXe siècle, on a vraiment bâti toute notre civilisation et notre rapport à l'énergie sur le feu. Et il critique justement ce choix, il montre qu'il y aurait peut-être eu d'autres voies possibles. Donc le feu, là on a vraiment le feu et l'eau qui produisent la vapeur, qui permettent à la locomotive d'avancer et aux usines de fabriquer. Donc c'est le choix du feu, mais qui ici est devenu le génie du feu. Ensuite.
Donc ici on a un tableau qui est particulièrement intéressant par la lumière qui émane du sol et se diffuse sur les objets. Il n'y a que quelques ombres, on a l'impression de sentir la chaleur diffuse un peu partout. En arrière-plan, l'horizon est dans la brume et dans le groupe d'une forme de brume de chaleur. Il s'agit du quai de la Grave et vous avez à l'arrière-plan l'église Saint-Michel.
Voilà, c'est l'actuel quai Sainte-Croix.
Voilà, et alors au premier plan, vous avez tout un abat, on est en train de travailler la pierre. Et vous avez aussi un personnage qui est dans l'ombre et qui a l'air de s'abriter du soleil et d'être occupé à lire. Et alors là, vous avez aussi sur la Garonne, on suppose que c'est des. On ne voit pas trop ce qui. Sont des bateaux, en tout cas à vapeur. Hein, voilà,
par contre, il n'y a toujours que les bateaux qui sont à vapeur. Il n'y a pas encore les trains, les grues à vapeur, tout ça, ça viendra plus tard. Pourtant, on est encore en. On est déjà
là,
en 1880.
Là, c'est 1884.
Ouais. Alors, passer au suivant. Non, c'est là. Pardon.
Alors, on change de. Tu n'as pas le monnaie ?
Non.
Ah bon. Bon, il y avait s'interpose un tableau qui fait la transition entre ce que nous venons de voir, en particulier dans le dernier. On a l'impression que là, c'était un instantané d'un moment de la journée, moment éphémère où les ombres pouvaient changer. Oui, parce que c'est un peu brutal quand même.
Voilà.
Il y a quelque chose de très réussi dans la saisie de cette chaleur, de ce moment. Et tout ce qu'on vient de voir, c'est cette nécessité de montrer comment le paysage a changé. Les lignes ne sont plus, ne s'imposent plus de la même façon. Comme dans les paysages réalistes. Donc on va petit à petit, tout ça est précurseur de ce qui sera l'impressionnisme. Et dans le livre, on va vous proposer un tableau de Monet qui représente la gare Saint-Lazare. Alors Monet a vraiment... était au cœur de ce courant artistique. Et par sa série de gares, je prends la gare Saint-Lazare, on a plusieurs tableaux de cette gare qu'il connaissait bien puisqu'il s'y déplaçait régulièrement. il s'agissait à ce moment-là justement de ne plus rester dans la figuration réaliste, mais de travailler sur la matière même de la lumière, d'essayer de rendre par ce travail de décomposition de la touche, de rendre les formes à partir de simplement des touches de lumière, et montrer comment le temps, le passage du temps modifie cette lumière dans le paysage.
Alors,
l'impressionnisme a évidemment au bout d'un certain temps conduit à l'abstrait. Bon, quand on regarde certains tableaux de Monet en particulier, je pense qu'on a fait A, on ne voit plus quel est l'objet du tableau, c'est-à-dire qu'on n'a plus que ce travail de la lumière sur le motif, et qui décompose les formes, qui annule les formes. Donc cette transition s'est faite jusqu'à ce que on s'intéresse autrement. Vous avez un retour à l'architecture du paysage. En particulier, alors là, il s'agit de l'entrée du bassin à flot d'André Lhote en 1912, où les lignes là sont recomposées selon des volumes, et on est là dans une représentation cubiste de l'espace. Alors c'est quelque chose qui est accompagné dans le même temps en Russie par le futurisme et par le constructivisme, et en Italie par le futurisme, où on s'intéresse en particulier à tout ce qui est machine, espace de travail, usine. Et ici on voit que les volumes, c'est uniquement Cézanne, qui défendait le cubisme, dit que tout peut être fait à partir de sphères, de cônes et de triangles. Donc là on voit que s'emboîtent différents volumes. C'est le travail de la couleur là qui va rendre l'atmosphère du lieu. Mais la recherche là est vraiment de retrouver la forme, de donner la forme, comme s'il s'agissait d'une architecture, d'une sculpture.
Donc on voit une cheminée d'usine, un train, vous n'avez pas un train ?
Non, c'est pas celle-là.
Un bateau, voilà. Toute la structure du monde industriel. Je passe ?
Oui. Allez, à toi, voilà.
Non, c'est pas ça.
Alors voilà.
Ah, c'est là qu'il y a le train.
C'est là qu'il y a le train. Alors ça, c'est le port de Bordeaux, de Maurice Pargade, 1935. On vient un petit peu en arrière. Donc là, on voit le train, effectivement. Alors, il semble que ce serait donc... ce tableau serait vu depuis les hauteurs de l'Ormont. Et on voit le train qui file vers Bordeaux. Et on voit que toute la rive est très industrialisée avec toutes ces usines.
Ici, là. Ici,
oui. Et on voit deux bateaux, deux steamers sur la Garonne. Alors là aussi, à l'horizon, en fumée, en buée, avec cette impression d'unifier, qui noie les formes.
Bon, maintenant on a terminé avec la peinture.
Alors il y a, on a ajouté aussi, parce que la vapeur est associée au train et à la vitesse, donc on a bien sûr rappelé le premier film réalisé projeté par les frères Lumière en 1886. Il s'agit de l'entrée du train en gare de La Ciotat. Vous n'avez pas l'image, elle est dans le bouquin. Celui qui me paraissait s'imposer, c'est-à-dire Jules Verne, et disons que toute sa vie a été conditionnée par cette découverte de la vapeur, pas seulement d'ailleurs, puisque c'est quelqu'un qui était très attentif à toutes les inventions, qui était aussi dont il s'est fait généreusement le commentateur et même l'inventeur, puisque dans ses il a écrit toute une série de voyages extraordinaires qui étaient publiés dans le magasin d'éducation et de récréation à l'usage de la jeunesse, en feuilleton. Et alors, parmi ces romans, il y en a un qui intéresse particulièrement la vapeur, qui est La maison à vapeur, c'est le Steam House, qui est vraiment un roman. On comprend que Jules Verne devrait vraiment être au programme des collèges parce qu'il est absolument époustouflant dans la richesse qu'il peut communiquer, les informations qu'il peut communiquer sur tout ce qui est justement transformation à cette époque, découverte. Il est lui-même fasciné par la machine. Il dit qu'il peut rester des heures à contempler un mécanisme. Et donc, il est comme ces personnages. Il a été tout le temps parti ailleurs et en a rapporté des tableaux, des histoires humaines extrêmement fortes. Donc, c'est vrai que je crois que si on voulait réconcilier les jeunes avec la science et aussi avec l'aventure humaine, c'est bien. Je pense qu'actuellement, c'est plutôt l'héroïque fantasy qui les intéresse. Je crois que ça serait très bien de mettre ça au programme. Mais je pense que c'est. Je crois qu'on peut le lire à tous les âges. Enfin, moi, j'ai réouvert ce. Je n'avais jamais entendu parler de Steam House. Et c'est vrai que là, vous avez tout Jules Verne dans son inventivité, sa fantaisie et ses connaissances, puisque dans les personnages centraux de Steam House, vous avez bien sûr toujours son voyageur, hein, qui est un peu lui-même, qui est curieux, qui lave. Alors tout, ça se passe en Inde, donc vous avez toute une partie qui rappelle la création de la Compagnie des Indes. Moi, j'ai appris moi-même beaucoup de choses. Et disons, alors là, on peut se fier à ce que. Il s'agit bien de la fable, mais il s'agit aussi dans les lieux qu'il décrit, dans les histoires qu'il raconte. Il est évident qu'il est au top de la connaissance et qu'il ne se risque pas à faire des erreurs. Alors ensuite, dans les personnages, vous avez un naturaliste qui va aborder. Alors c'est un naturaliste un peu fantaisiste, puisqu'il s'est reconverti, il est parti en Inde pour capturer des animaux, hein, pour les ménageries des nababs de l'endroit. Mais alors à ce propos, sur les animaux, sur la faune de ce pays, on a de magnifiques tableaux, parce que Jules Verne est dans l'admiration, dans l'émerveillement devant la nature, sauvage, même s'il y a parmi les personnages, il y a un chasseur qui est là pour les détruire et un autre qui est là pour les capturer. Donc je pense qu'il nous fait voyager dans tous les domaines des connaissances. Alors surtout là, Steam, j'arrêterai là. On peut lire un peu quelque chose.
Oui, on va lire peut-être. Oui.
C'est ce qui est assez fantastique. Alors, Déjà, c'est l'action centrale, c'est la révolte des cipayes, hein, c'est ce qui est le nœud de l'histoire. Et bien entendu, cette révolte, elle est à la fois dictée par parce que ils veulent chasser les Anglais, hein, mais surtout parce que l'arrivée du train bouleverse le pays et il y a d'autres raisons aussi pour qu'il refuse cette présence-là. Et il est évident que là aussi, Jules Verne dénonce. Parce qu'il est évident que même s'il admirait les Anglais, il n'appréciait pas leur manière de se comporter dans ce pays-là. Alors ce qui est particulièrement intéressant aussi, c'est justement dans l'intrusion de la machine à cette époque-là, c'est l'invention de cette steam house qui doit donc les conduire à travers ce voyage de Calcutta à Bombay. C'est donc une machine à vapeur sur route, mais qui prend l'aspect d'un énorme éléphant. Alors ça nous renvoie aussi, on a mis la photo aux machines du...
Dans les machines de Nantes, ils ont reproduit un éléphant qui malheureusement n'est pas à vapeur.
Il n'est pas à vapeur, celui-là.
Qui est tout à fait inspiré de l'éléphant de Jules Verne.
Voilà. Donc cet éléphant, je crois que ce serait bien qu'on le décrive, non ?
On n'a pas trop de temps.
Non, en tout cas, c'est dans ce pays-là. Il est extrêmement décoré. Il est fabuleux. Il est orné de plein de joyaux et de très carapassonné de pièces rares. Et surtout, alors il traîne deux wagons qui sont des pagodes. Construit comme des pagodes et qui servent d'habitation. C'est la steam house, ce sont de vraies habitations pour les voyageurs et pour toute l'intendance, puisque alors là, on retrouve le Jules Verne qui savoure les inventions qui lui rendent la vie agréable. En particulier, ils ont pu amener des provisions parce qu'on sait maintenant comment les conserver. Entre autres, enfin, vous avez toute une série d'objets précieux, alors comme le télégraphe, qui les accompagne et qui facilite leur voyage. Alors, on a l'impression d'être dans cette histoire comme dans un magasin de curiosités où on découvre des choses extraordinaires. Alors, bon, je peux quand même lire un peu quelque chose, puis je vais m'arrêter là. Non, alors là, c'est le voyageur, le Parisien, hein, mot clair, qui arrive et qui se plaint parce qu'il est finalement le voyage en train ne lui a pas particulièrement plu. Voilà pourquoi. Oui, aveuglé par la fumée, par la vapeur, par la poussière, et mieux encore par la rapidité du transport, je ne veux pas médire des chemins de fer, puisque votre métier est d'en construire, mais se calfeutrer dans le compartiment d'un wagon, n'avoir pour champ de vision que la vitre des portières, courir jour et nuit avec une vitesse de 10 000 à l'heure, tantôt sur des viaducs en compagnie des aigles et des gypaètes, tantôt sous les tunnels en compagnie des mulots et des rats, ne s'arrêter qu'aux gares, qui se ressemblent toutes, ne voir des villes que l'extérieur des murailles, l'extrémité des minarets, passer dans cet incessant brouhaha des mugissements de la locomotive, des sifflets de la chaudière, du grincement des rails et du gémissement des freins. Est-ce que c'est cela, voyager ? Donc, l'ingénieur, qui aussi, dont il dira que c'est un esthète et un poète, pour avoir construit le steam house, lui explique que lui travaille pour des gens pressés. On est à une époque où le temps c'est de l'argent et que ça n'est pas fait pour des voyageurs qui sont affamés de voyages de découverte. Alors,
je pense qu'on
va s'arrêter. Mais alors, en tout cas, je vous conseille vraiment de lire cette Steam House que j'ai découverte grâce à la demande de ma collègue.
Bon, ben là, on va encore parler de train, mais de façon tout à fait différente, beaucoup plus positive, avec Florian. Donc, comme je vous ai dit, c'est un ancien étudiant de l'IUT Génie Mécanique. Il faudrait que je mette plus près du micro. Donc, ancien étudiant de l'IUT Génie Mécanique, qui fait actuellement des études d'ingénieur à l'ENSAM. Il va vous raconter son parcours et pourquoi il fait ça, et pourquoi il a participé à cet ouvrage et de quoi il a parlé.
Voilà. Donc, bonjour à tous. Donc moi je viens donc d'un IUT génie mécanique, puis donc actuellement je suis aux arts et métiers en alternance du train jusqu'au bout avec la SNCF. Donc j'ai fait un IUT génie mécanique, pourquoi? Parce qu'au départ c'était une passion qui est venue depuis l'âge de 6 ans avec un premier TGV que j'ai eu au pied du sapin, et ce TGV que j'ai toujours actuellement roule toujours. Et je l'ai conservé en modèle réduit quand même, parce que ça serait un peu à l'étroit dans l'appartement. À l'échelle 1/87, donc on roule toujours. Et je m'en sers encore dans mon réseau personnel. Cette passion a continué continue toujours. À l'échelle 1/87, donc tous les Noëls, j'ai mon train depuis l'âge de 6 ans. C'est immuable, donc je possède maintenant une grande connexion de trains qui sont de plus en plus, avec la technologie et les procédés de fabrication qui est actuellement de plus en plus perfectionnés. Maintenant on a des trains qui sont carrément sonorisés, télécommandables à distance, les lumières, on peut les faire aller les uns contre les autres, il n'y a pas de problème. Faire des accidents, c'est pas bon jouer, mais bon. Les gens maintenant disent bah, le train c'est quelque chose pour les gosses. Moi je dis faux, totalement faux. C'est quelque chose qui peut intéresser les enfants, aussi bien les enfants que les adultes. Parce que maintenant le train, le modisme d'aujourd'hui, c'est du repérage dans les villes, par exemple, faire des photographies, les reproduire en miniature carrément, réaliser des petites saignettes de vie, une étape, un marché, par exemple. Bon, on peut voir plein de petites saignettes, reproduire, par exemple, le village de son enfance, sa gare, ses voyages, avec ses locomotives préférées. Voilà. Et donc maintenant, cette passion continue donc avec de plus en plus perfectionnée, avec des réseaux que je suis en train de construire. Par exemple, je vais vous montrer quelques photos. Alors ça, c'est un réseau que j'ai construit. C'est pas mon premier réseau, parce que mon premier réseau était dans une pièce aménagée uniquement pour ça, qui se faisait au sol. J'avais ramené quand même 5-6 brouettes de sciure pour faire des reliefs. Il y en avait partout, on ne pouvait même plus marcher. Là, c'est un réseau que j'ai construit pour un petit de 5 ans, qui était passionné par les trains. Maintenant, le train, c'est de moins en moins la mode. La faute, je vais dire, aux jeux vidéo. Donc le réseau maintenant il est délaissé, malheureusement, et ça c'est fait à partir d'un sommier de lit. Donc tout un été j'ai passé à le faire, ce réseau, quoi.
Il n'est pas à vapeur.
Donc toujours, après on peut faire des petites scénettes. Voilà, c'était une ligne que j'avais parcourue, j'ai voulu réaliser une portion de cette ligne, toute petite, pour présenter des trains. Alors, ça peut être des trains actuels, comme des trains à vapeur, ou sinon, maintenant, vous avez le train actuel, le super détaillage, ce que je suis en train de faire. Bon, ça, c'est pas de la vapeur, c'est un train qui est circulé jusqu'à 2003. C'est des trains qui s'appelaient les turbotrains, motorisés par des turbines à gaz. Et dedans, à l'origine, il n'y avait rien. Le but maintenant, c'est de le super détailler au maximum, c'est-à-dire de reproduire l'intégralité de l'aménagement intérieur de cette motrice à partir de photos. Voilà ce que c'est le modélisme actuel. Voilà, vous pouvez voir les tablettes, les personnages, tout ça. Il faut savoir que tout ça, c'est fait à partir de la carte plastique. Alors après, ça c'est une partie de mon modélisme. Au fur et à mesure des années, j'ai grandi et vu d'autres nouveautés dans le modélisme, qui s'appelle l'échelle en huitième après, le train jardin. On monte en échelle, et cette échelle-là maintenant permet notamment la vapeur. C'est ce qui m'a mené aussi, j'ai découvert donc, il y a maintenant 6 ans, un réseau qui est à côté de Bussière-Galland, qui est à la limite de la Dordogne, dans le Limousin, à Haute-Vienne. Et il y a un réseau qui fonctionne par un club qui s'appelle Astrafer, qui fonctionne toutes les juillet et août, avec une locomotive à vapeur. Et cette locomotive à vapeur va capter l'attention. Par les odeurs, les mouvements, les capacités de traction, parce que le 1/8 quand même peut, à vapeur, peut tirer des personnes, et ces personnes, on en tire quand même 20, donc jusqu'à 1,5 tonnes, 2 tonnes de chargement derrière les locomotives à vapeur. Donc c'est ce qui m'a fait mener vers les études de génie mécanique pour pouvoir construire ma propre locomotive. Voilà. Alors vous avez des locomotives qui sont réalisées par des passionnés. À partir soit de plans de vraies locomotives qui circulaient sur les réseaux, sur le réseau ferré national ou sur à l'étranger. Ça, actuellement, c'est une reproduction en cours de réalisation par un membre du club que j'appartiens maintenant, qui s'appelle Astrafer, donc du petit train, qui est une Doucouville. Ces locomotives ont circulé sur les voies maraîchères, sur les mines, dans les mines. À l'échelle généralement d'écartement de rails de 0,60 mètres. C'était des voies transportables, on va dire, par petits coupons. Donc c'était fabriqué par une petite entreprise de la région parisienne. Et on pouvait transporter donc, ces rails comme un réseau miniature qui était très modulable dans les mines et avancer au fur et à mesure, notamment. Et ça, c'est une reproduction donc à l'échelle 1/8 d'une de ces locomotives. Et vous avez aussi donc une échelle plus petite, intermédiaire, qui s'appelle l'écartement haut, qui est le 45 mm, l'écartement, qui fonctionne aussi à vapeur, chauffé par... alors, vous savez, vous avez la brosse en haut, au-dessus, chauffée au gaz, peut être chauffée au gaz ou chauffée au charbon, avec de l'eau. Et la celle qui est devant, c'est à l'alcool à brûler. Chauffé à l'alcool à brûler. Toujours avec de la vapeur. Donc c'est des réalisations par des personnes passionnées. Là, vous avez un exemple d'une locomotive qui a circulé à partir de 1945, fabriquée par les États-Unis. Généralement pour la circulation sur le déchargement des quais des navires. Donc cette locomotive, ayant vraiment circulé sur le réseau SNCF, a été fabriquée par une personne qui à l'origine n'était pas du tout dans les trains. Elle travaillait chez Simca, dans la tôlerie, et elle en a réalisé 3 machines comme ça. C'est du travail de longue haleine. Elle a mis 15 ans pour la... Cette personne a mis à deux 15 ans pour les fabriquer. Bon, elle travaillait pendant ce temps-là, donc sur les heures libres, on fabriquait cette locomotive à partir des plans de la vraie locomotive. Donc de l'usinage à la maison, avec un tour, une fraiseuse, des relations avec certaines entreprises qui étaient spécialisées dans la fonderie, notamment pour les roues qui sont en fonte. Vous avez pas mal de pièces, comme les moteurs qui sont ici, en fonte aussi. C'est du travail de longue haleine, il ne faut pas être pressé, mais c'est de la vapeur, on va dire, c'est une passion qui est inestimable. Parce que c'est des locomotives qu'on ne trouve pas dans le commerce, il faut savoir. Non, je ne suis pas passionné vraiment par ces trains-là, je suis plutôt passionné par les trains, les autorails. Alors les autorails diesel à cette échelle-là, et après à cette échelle-là, je suis plutôt à la vapeur. Pourquoi ? Bon, il existe quand même une locomotive qui a été fabriquée par Hornby, qui est une entreprise anglaise, à cette échelle-là, au 1/87, qui fonctionne à la vapeur. Et elle est chauffée par une petite résistance, mais c'est des locomotives qui sont de cette taille-là, quand même. C'est pas... Et vous avez... moi, je préfère vraiment les autorails. Pourquoi ? Parce que c'est des trains qui sont assez courts. Et quand on a un grand réseau, c'est très pratique. Mais en ce moment, les réseaux, j'ai pas beaucoup de place. Et pas trop le temps de les faire. Et j'appartiens pas à une association en fait, qui fait des réseaux
mais
à cette échelle-là.
Mais ça ne vous dirait pas de créer une association, justement, qui puisse mettre en place tout ça ? Vous devez être bien entouré.
Oui. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais non, on fait un peu chacun de son côté. Maintenant, il y a des forums. Ce qui se fait, bon, chacun de son côté. On peut, par des forums, regrouper après, faire des bouts de réseau, les regrouper ensemble lors d'expositions, ça se fait. Mais non, je ne suis pas très train de marchandises, sauf peut-être les trains de maintenance de voie. La LGV va arriver d'ici Bordeaux, d'ici 2016.
C'est ça.
Donc, oui, c'est la concurrence au niveau de l'infra, de la SNCF.
Ils sont pas contents d'ailleurs, la SNCF.
Bien sûr. C'est pas étonnant avec la concurrence, surtout sur le niveau maintenance et création de voies. Maintenant, la SNCF ne fait plus de création de voies parce qu'il faut savoir que la maintenance des voies est faite par l'infra de la SNCF et c'est encore une branche séparée de la SNCF.
D'accord.
Et qui est sous-traitée par RFF, Réseau Ferré de France, qui possède toutes les voies. Et s'il y a des problèmes actuels sur la voie, c'est pas faute de la SNCF, maintenant c'est la faute à RFF, qui, dispatche la maintenance de la voie sur la SNCF, sur l'infra de la SNCF, sur, vous pouvez voir, TSO, Travaux du Sud-Ouest, et sur d'autres entreprises privées. Donc c'est pour ça que vous pouvez voir des trains, de plus en plus de trains de maintenance des voies sur, et de création de voies sur le réseau ferré national. Voilà. Et le problème de la LGV, voilà, c'est justement puisque ça s'est séparé en diverses branches, pourquoi la SNCF n'est pas contente là-dessus.
Pardon, je dois quand même signaler quelque chose par rapport à ce livre. On m'a reproché de ne pas avoir assez parlé de trains. Non, c'est pour ça que je fais venir Florian. Il a écrit quelques pages dessus. Bon, on parle des trains, mais ce n'est vraiment pas le thème central du livre. On a préféré justement développer d'autres thèmes dont je vais parler quand il aura terminé.
Je vais terminer sur une autre partie de ma passion, parce qu'au fur et à mesure que je grandis en échelle. Donc je suis toujours sur l'échelle 1/8, je suis en train de construire une locomotive. Faute de moyens pour l'instant, une locomotive électrique, qui est une reproduction là pour l'instant en carton, une pré-maquette en carton. Je suis en train de la faire en métal, complètement réalisée sous ordinateur, en CAO, motorisée par des moteurs de fauteuil roulant que j'ai récupérés. Pour la petite histoire, c'est une locomotive qui date des années 50, fabriquée aussi par les Américains pour refaire le parc français qui avait été détruit pendant la guerre. C'est des locomotives de manœuvre, et donc je suis encore en pleine réalisation de cette machine et à l'étude pour la motorisation, parce qu'il y a toujours des petits problèmes, des petites adaptations par rapport à l'existant, par rapport à des moteurs et à la réduction. Même à cette échelle, au 8e, on a encore des problèmes de réduction. Et donc, future locomotive après, donc je vois encore au futur. Une 141R, c'est une locomotive qui a été fabriquée encore par les Américains pour repeupler donc le réseau ferré français. C'est une locomotive de grande ligne, fabriquée à plus de 1400 exemplaires. Et chez moi, cette locomotive a été une grande passion que j'ai envie de réaliser parce qu'elle est simple de fonctionnement. C'est une locomotive simple expansion. Pas comme les dernières locomotives françaises ayant existé, à double expansion, les Chaplons notamment, qu'on utilise la haute pression et la basse pression de la vapeur. Là, la 141R, c'est une locomotive toute simple de fonctionnement, la première locomotive banalisée qu'on appelle, c'est-à-dire vous avez comme une locomotive en location, le conducteur monte dans la machine, chauffe la machine, fait son circuit, la laisse après en dépôt et une autre équipe de conducteurs monte dans la machine et continue à faire le voyage. Alors qu'avant, c'était une locomotive titularisée, c'est-à-dire que vous avez une équipe de chauffeurs et mécaniciens qui étaient titularisés à la machine, c'est-à-dire qu'elle ne quittait jamais sa machine, c'était comme une fille pour eux, s'occuper, la bichonner de A à Z.
La liaison.
Voilà, par exemple.
Tout
tout à fait.
Que tout le monde connaît. Ouais.
Et donc ces machines-là, vous pouvez, j'ai même une petite anecdote, je connais une personne qui était justement dans, dans ce cas-là, qui suivait sa machine et qui allait même jusqu'aux ateliers de maintenance pour voir si c'était bien réalisé, si par exemple c'était pour ce cas-là d'un remplacement d'un essieu, que vous avez pu voir la première photo que j'ai pu diffuser, il suivait, bah, comme les associations de maintenant, si c'est bien fait réaliser correctement, comment c'est fait. Et pour savoir comment est faite leur machine jusque dans les entrailles. Et donc dans cette passion-là, donc maintenant depuis 2 ans, que je suis notamment, que je connais le directeur du Technicentre de Bordeaux, qui est membre d'une association qui s'appelle le CFTLP, les chemins de fer Périgord CF, chemin de fer T. Limousin-Périgord, touristique, voilà, chemin de fer touristique du Limousin-Périgord. C'est une locomotive qui est une 141 TD 740. Alors 141 pour un essieu porteur, 4 pour 4 essieux moteurs, 1 pour un essieu porteur, TD pour tendérisé. Donc je vais vous montrer quelques photos. C'est des voyages que je fais maintenant régulièrement l'été. Alors attendez. Donc là, vous avez par exemple une 140C qui appartient aussi à l'association en réalisation, qui va être opérationnelle d'ici cet été. Pour la petite histoire, c'est la 140C38, c'est celle qui est en circulé, qui a été filmée pendant on a retrouvé la 7e compagnie. Voilà pour la petite histoire. Et cette locomotive nous tient à cœur de la remettre en état. Pour cet été justement, et on devrait d'ici le mois de, on espère d'ici le mois d'avril-mai entendre les premiers sifflets de cette locomotive. Donc là voilà la 141 TD 740 qui date de 1932. C'est une locomotive à 3 cylindres, 2 cylindres à l'extérieur et 1 cylindre à l'intérieur, et qui est en circulé sur la région parisienne. Et, elle est apte à 70 km/h. C'est une locomotive faite pour être utilisée dans les deux sens de circulation, parce que maintenant, vous avez vu la locomotive, la 140C, par exemple, ne peut pas être circulée dans les deux sens de circulation. C'est à cause du temps d'air qui est à l'arrière.
C'est celle qui vient en juin à Bordeaux, à Soulac, non ?
Celle-là, c'est celle qui venait en juin à Soulac. Je ne sais pas si cette année, ils veulent le...
Oui.
La fête
des 30 ans, c'est Soulac 1900, ouais. Donc c'est celle-là. Ouais.
Et celle de Guitre,
Celle de Guitre, je l'ai vue lors de, justement d'une visite pour le vélorail, au sujet d'un vélorail. Donc, bon, et je ne l'ai pas vue en état de fonctionner. J'y suis jamais.
Non, elle fonctionne toujours. Hein. Oui. Ouais. Oui, oui, oui.
Eux, ils ont l'avantage quand même d'avoir une ligne qui est, on va dire, qui appartient au club. On va dire qu'il n'y a pas d'autre circulation, il n'y a pas de circulation SNCF. Le CFTLP, donc, qui est sur Limoges, est une association qui existe depuis une bonne trentaine d'années et qui n'a pas de réseau personnel, qui est dans des locaux de la SNCF qui sont prêtés aimablement. Et il circule sur le réseau ferré national, entre Limoges et Limoutiers. Limoges et Limoutiers, c'est une ligne assez bucolique, avec des viaducs, des tunnels, et qui est qui quand même fait une certaine nostalgie. Il n'y a pas que la locomotive qui fait la nostalgie, il y a toute l'ambiance qui est autour, les odeurs de vapeur, la...
Alors je vais encore un peu parler de train, parce que bon, alors, dans ce livre, vous avez quand même quelque chose d'important, c'est à la fin un CD audio. Ce sont des enregistrements d'anciens de la SNCF qui travaillaient à Périgueux sur la réparation des machines à vapeur. Voilà, donc c'est des témoignages oraux qui sont très importants, je pense, même pour les jeunes actuels, hein, pour comprendre comment fonctionnait même la SNCF il y a presque 100 ans. Et on voit dans des conditions de travail qui sont tout à fait différentes aujourd'hui. Par exemple, celui qui est interviewé, on lui demande pourquoi il est rentré à la SNCF. Alors, ce n'était pas pour la passion des machines à vapeur, c'était parce qu'il avait la retraite à 55 ans. Voilà, donc des critères qui ont bougé aujourd'hui. Donc, beaucoup de choses ont changé. Alors, c'est vrai que dans les transports, la vapeur a quasiment disparu, hein, sauf... dans certains domaines, les sous-marins nucléaires, hein, par exemple. Mais par contre, ce qu'on a voulu mettre aussi en évidence dans ce livre, c'est la place très importante qu'elle occupe dans l'industrie aujourd'hui. Alors, ça fait plusieurs présentations qu'on fait de ce livre, et chaque fois, j'essaie de faire venir des auteurs différents. Bon, c'est vrai que pour la librairie Mola, on a choisi d'axer ça un peu sur l'art, la littérature et la passion, enfin, ne pas rentrer trop dans le domaine industriel et technique. Peut-être que c'est une erreur, je ne sais pas. Mais en tout cas, je voudrais signaler la présence ici de deux personnes qui m'ont beaucoup, beaucoup aidé pour ce livre, deux industriels. Donc, Fabrice Cross, qui est ingénieur à l'APAV. Alors, l'APAV, c'est un organisme de contrôle que vous connaissez peut-être. APAV, ça veut dire Association des appareils à vapeur et électrique, qui existe depuis plus de 100 ans.
Longtemps,
on va dire. Voilà. Et donc, Fabrice Cross m'a beaucoup aidé pour trouver toutes les applications actuelles de la vapeur et prendre des contacts avec les industriels et les faire participer au livre. Donc, il y a 15 entreprises présentées dans ce livre qui utilisent la vapeur soit pour sa chaleur, soit pour sa force. Donc, ça va par exemple, des scieries qui utilisent la vapeur pour sécher le bois, aux papeteries et à la centrale nucléaire de Brault-Saint-Louis, qui fonctionne à la vapeur. C'est une énorme machine à vapeur. Simplement, au lieu du charbon, il y a de l'uranium. Voilà. Simplement. Ce que je voulais dire, c'est que je remercie beaucoup Fabrice Cross de l'aide qu'il m'a apportée là-dedans. Donc, l'APAV contrôle toutes les machines à vapeur actuelles. Chaudières, voilà, turbines, etc. Et notamment les trains à vapeur. Et donc, il y a parfois des accrochages, un peu, si on peut dire, entre les passionnés et les organismes de contrôle, parce que c'est vrai que ce sont des locomotives vétustes et il faut absolument être rigoureux avec leur usage, quoi.
On a même affaire à la PAV, on va dire, même à l'échelle 8e, parce que c'est à partir d'une certaine contenance dans les locomotives. Et nous, on a au 8e, on a une petite, une association qui s'appelle la Confrérie des amateurs de vapeur. Et eux, ils sont habilités, on va dire, de certifier une chaudière, donc sans avoir affaire à la PAV. Donc c'est pour ça qu'on peut biaiser, on va dire, ce système de validation, voilà. Mais ça reste quand même très sérieux parce que s'il y a un problème là-dessus.
Il y a toujours le danger de la vapeur, ce qui est celui de l'explosion. Donc la deuxième personne que je voudrais remercier ici, c'est Luc Labalette, qui m'a beaucoup aidé lui dans mes recherches sur comment produit-on l'électricité aujourd'hui et quel est le rôle de la vapeur dans la production électrique. Voilà, donc il m'a permis d'avoir des documents sur Ambès, la centrale d'Ambès, qui était une centrale thermique à fioul. Qui est en train d'être détruite, peut-être détruite complètement, non ? Voilà, donc c'est la centrale. Alors, centrale thermique, c'est-à-dire on brûle du fioul pour faire chauffer de l'eau, faire de la vapeur qui fait tourner des turbines et obtenir ainsi l'électricité. Et donc, c'est elle qui a fourni l'électricité à Bordeaux pendant très longtemps, jusqu'à donc l'arrivée du nucléaire. Je crois qu'elle a continué à marcher un peu en secours. Voilà. Donc, dans ce livre, on a essayé de montrer toutes ces façons donc, de produire l'électricité et la place de la vapeur, qui est encore très importante dans notre pays, surtout. Vapeur pour produire l'électricité. Il y a donc, j'ai parlé aussi de patrimoine. Si vous avez l'occasion, des belles machines, vous pouvez en voir dans les Landes, à côté d'Aunès-la-Harry. Non, enfin, oui, un peu, mais surtout à Aunès-la-Harry, vous avez un collectionneur qui a acheté des machines de scierie, des machines fixes, donc, qui servaient dans l'industrie. Certaines ont fonctionné jusqu'en 1990. Donc, ce sont des machines qui permettaient aux scieries d'être complètement autonomes au point de vue énergétique, c'est-à-dire qu'elles brûlaient leurs copeaux de bois et pour produire de la vapeur. Et ça produisait donc soit une force pour faire tourner les turbines, soit une force pour faire tourner l'arbre. Je ne sais pas si vous voyez, dans les anciennes usines, il y avait toujours un arbre de transmission. Ça veut dire qu'il y avait une chaudière au bout, une machine à vapeur qui faisait tourner l'arbre et qui permettait de récupérer la force sur chaque machine. Voilà, c'était l'ancêtre du réseau électrique. Hein, au lieu d'avoir un fil et des prises, ben, c'était cet arbre qui transmettait la force aux machines. Voilà. Donc cet endroit, Onnes Lahari, s'appelle les pieds sur terre. Il a écrit d'ailleurs dans le livre un article un peu philosophique sur son rapport à la vapeur et notamment sur l'interrogation qu'il demande de faire sur pourquoi produire tant d'énergie plutôt que le comment. Voilà. Donc cette question de la vapeur est au cœur des problèmes actuels sur l'énergie, puisque si on continue à utiliser de la vapeur pour produire l'électricité, ben, il faut choisir son combustible. Et donc, ça peut aller du charbon au pétrole, au soleil. Il y a des recherches sur le soleil, ou à l'uranium. Voilà. Voilà. Ben, je crois qu'il n'y a rien de parfait. Hein. Chaque système a ses défauts. Alors, moi, je croyais beaucoup au soleil. Là, je suis allée à la centrale d'Odeillo à Font-Romeu. J'ai finalement été assez déçue. Enfin, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Quoi. Ils n'ont pas eu assez d'argent pour les recherches, ou c'est peut-être trop compliqué d'utiliser du soleil parce que c'est quelque chose qui varie tout le temps. Ça n'a rien à voir avec un combustible qu'on met dans le feu. Quoi, hein. Donc il suffit qu'un nuage passe, après il y a le problème de la nuit. Enfin, il y a des variations de température permanentes qui font que c'est une énergie qui paraît extraordinaire, mais qui est très difficile à gérer. Voilà. Donc, à Odeillo, il y a quelqu'un, un laboratoire qui s'appelle Promesse, qui fait des recherches sur soleil et vapeur. Donc, produire de la vapeur avec le soleil. Mais je crois qu'ils ne sont pas encore au bout de leur peine. Je crois qu'on verra encore longtemps, peut-être, des centrales nucléaires ou thermiques. Alors, vous voyez, c'est un livre vraiment foisonnant. Pardon, excusez-moi. Ça va de l'art au modélisme, à l'énergie. On a essayé vraiment de décrire donc, tous les aspects du monde de la vapeur qui a, je pense, totalement changé nos vies.